Chapitre 11. Traits de caractère. Le jour suivant, Mrs. Mitin vint avec beaucoup d'empressement annoncer que le tirage de la loterie des pendants d'oreilles était fixé à 1 heure après-midi. Elle accompagna sans le moindre scrupule toute la société dans la boutique, s'adressant familièrement tantôt à l'un, tantôt à l'autre, comme si elle eût été avec tout le monde dans la plus parfaite intimité. Mais M. Desnel était celui qui la supportait le plus volontiers, parce qu'il trouvait dans les éloges de cette femme la critique de sa belle-sœur. Mrs. Alberi était la personne du monde qu'il craignait le plus et qu'il aimait le moins. Il ne pouvait s'accommoder ni de sa magnificence dans sa manière de vivre, ni de la vivacité de son esprit. Son avarice lui faisait condamner la première comme extravagante, et son défaut d'intelligence lui faisait haïr l'autre qui blessait son amour-propre. Il se persuadait donc qu'il y avait plus de mots que de choses dans ce que disait Mrs. Alberi, tandis qu'il regardait Mrs. Mitin comme un oracle à chaque vérité triviale qu'elle débitait. Quand ils entrèrent dans la boutique, Edgar y était déjà, car il lui était impossible de ne pas se rendre dans un endroit où il était assuré de voir Camilla, et une loterie lui rappelait les plus tendres souvenirs. Il était maintenant avec Lord Holernay, dont il aimait le caractère loyal et bienveillant, et avec Lady Isabella Airy. Cette dame était venue comme simple spectatrice et pour complaire à une amie qui, n'ayant jamais vu de loterie, était bien aise d'assister au tirage de celle-ci. Il tardait infiniment à Edgar de voir Camilla présentée à cette dame, dont les manières et l'entretien avaient un caractère de dignité et de simplicité qui le charmait. Tandis qu'il causait avec eux, quoique son esprit fût tout à Camilla, Lord Holernay la désigna à Lady Isabella. « Je l'ai déjà remarqué au bal, » répondit sa seigneurie, « et je n'ai guère vu de jeune créature plus intéressante. » Je suis singulièrement frappé de la décence de son maintien. Il n'y a rien d'emprunté et il annonce de l'esprit sans art. J'ai tant de plaisir à la voir qu'involontairement je suis inquiet pour elle. Je ne la crois pas heureuse, dit Lady Isabella. Savez-vous qui elle est, milord? Ici, Edgar eut beaucoup de peine à retenir un soupir. Pas heureuse, se dit-il en lui-même. Ah, pourquoi? Qui pourrait la rendre malheureuse? J'ai appris qu'elle était nièce de Sir Hugh Tyrold, répondit Holernay. C'est un baronnet de Yorkshire. Elle est ici avec une de mes connaissances, Mrs. Alberi, l'une des premières femmes que j'ai jamais connues pour l'esprit et pour le savoir. Elle a également un excellent cœur, quoique ses talents extraordinaires et sa disposition à fronder l'opinion ne permettent pas qu'on lui rende toujours justice. Edgar entendit cet éloge avec plaisir. Le témoignage de Lord Holernay dissipa une grande partie de ses craintes sur le compte de Mrs. Alberi. Il se persuada qu'il s'était alarmé mal à propos et se promit de la juger plus favorablement à l'avenir. « Je serais charmé, continua Lord Holernay, que cette jeune personne fût bien établie ou qu'elle retournât chez ses parents sans avoir été affichée. Il n'est pas d'endroit où une jeune femme soit moins souvent respectable ou moins souvent respectée que dans ces sortes de lieux, surtout si elle s'y fait voir trop fréquemment. La recherche du plaisir et de la dissipation dans un endroit tel que celui-ci, consacré au rétablissement de la santé, entraîne avec elle une idée d'égoïsme qui s'accorde mal avec les sentiments généreux. Mais le malade, milord, ne peut-il se trouver mieux que la gaieté qui l'environne? Oui, milady. Je crois qu'il peut en retirer quelque bien. Mais ce n'est pas ce motif qui attire ici la jeunesse. Ce n'est pas ici qu'elle se trouvera le plus honorée. Le mélange de la souffrance et de la maladie avec la magnificence et les fêtes est une chose si peu naturelle qu'il ne faut peut-être pas chercher d'autres raisons de la sévérité avec laquelle on juge ici les femmes. Sont-elles pauvres, on les regarde comme des aventurières. Sont-elles riches, on suppose qu'elles courent après un trompeur. « Cependant, my lord, il est rare à ce que je présume que les jeunes femmes méritent d'être jugées avec tant de sévérité. Elles viennent ici l'été comme elles vont l'hiver à Londres sans autre motif que celui de chercher de l'amusement. » Cela est vrai, mais une réflexion qu'elles ne font pas, leurs observateurs la font pour elles. Un long usage a mis les plaisirs de l'hiver hors de critique, mais ceux de l'été n'ont pas en leur faveur une prescription aussi positive. D'ailleurs, ceux qui, ayant rencontré tout l'hiver les mêmes femmes à l'opéra, les retrouvent le printemps à Ranelagh, l'été à Cheltenham ou à Tunbridge et l'automne à Bath, peuvent demander s'il est pour elles une saison qu'elles destinent aux soins domestiques. Ah, Milord, combien ces jeunes inconsidérés sont loin de se douter d'une pareille question. Que la sagesse de l'expérience est nécessaire à l'étourderie du jeune âge. Pourquoi n'est-elle pas ici, se disait Edgar. Que ne peut-elle recueillir cette morale douce et saine qui lui serait utile toute sa vie? Il n'est rien, reprit Lord Holernay, que je déplore plus sincèrement que les erreurs des jeunes femmes. Les admirateurs les plus outrés de leur beauté sont presque toujours les critiques les plus sévères de leur conduite. L'arrivée de Lord Newford, de Sir Théophile Gérard et de Sir Sedley Clarendel, parlant et riant tous à la fois, ne permit pas de pousser plus loin cette conversation. Les deux premiers n'eurent pas plus tôt aperçu Camilla que ne voyant ni Lady Alicia Selmore ni Miss Riberlinton, ils l'accostèrent et Sir Sedley, la trouvant alors complètement établie dans le bon ton, sentit un plaisir mêlé d'orgueil à se prévaloir publiquement de son intimité avec elle. Il sentit également quelque intérêt de curiosité à examiner si l'accueil qu'elle lui ferait affecterait Edgar. Mais la manière dont elle le reçut ne fit sur Edgar aucune impression. Tant qu'il n'avait vu qu'un fat dans Sir Sedley, il pensait que Camilla ne pouvait le bien recevoir sans se dégrader. Mais depuis qu'il regardait comme son sauveur, cette conduite lui paraissait naturelle et motivée. Sir Sedley, ne sachant pas tout cela, fut un peu piqué du stoïcisme d'Edgar et, le prenant dans un autre coin de la boutique, il lui dit en confidence « Je suis horriblement travaillé de vapeur. Croiriez-vous que j'ai quelque envie de faire ma cour à cette petite fille ? Dites-moi si l'on pourrait en faire quelque chose. » « Comment ? Quel est votre but ? » dit Edgar d'un ton alarmé. Sir Sedley, un peu flatté, répondit avec affectation « Oh, si vous avez le moindre dessein sur elle, soyez sûr que je ne veux pas vous barrer le chemin. » « Moi ? » dit Edgar, surpris et offensé. « Vous pouvez croire que non. Je l'ai considérée toute ma vie comme ma sœur. » Sir Sedley vit que ces mots étaient prononcés avec effort et il répondit négligemment « Vous êtes précisément à cette première époque de la vie où l'on peut se marier par inclination. Mais vous êtes pleinement autorisé à ne pas faire si tôt les funérailles de votre liberté. Il sera toujours temps d'en venir là. » Tant de filles attendent après leur établissement que l'homme de 60 ans peut, tout aussi facilement que celui qui n'en a que 21, épouser une femme qui n'en est que 18. Le seul inconvénient que je trouve dans ces sortes d'alliances, c'est que, bien que la jeune personne soit d'abord aussi soumise à son vénérable époux qu'elle l'était à son papa, elle est terriblement susceptible de s'émanciper ensuite avec la même facilité. « Ceci ne me paraît pas, dit Edgar, un motif d'encouragement pour les mariages tardifs. »« Bah, dit Sir Sedley en ouvrant sa tabatière, ce n'est pas une chose aussi décourageante que vous pourriez le croire. Ces sortes de chagrins, après tout, glissent sur nous dans le siècle où nous sommes. Nous faisons une si prodigieuse dépense de sensibilité en public, nous nous attendrissons si fort aux récits pathétiques des infortunes qu'on nous raconte à table, que s'il fallait, par-dessus le marché, nous apitoyer sur nos intérêts domestiques, nous ne nous rencontrerions jamais que la larme à l'œil. On ne pleure maintenant qu'à dîner ou aux heures de récréation. » À ces mots, Lord Newford le tira par le bras en lui disant « Viens, Clary, il nous manque un homme, nous avons besoin de toi. » « Viens, Clary, ne nous enlevez pas, Clary, dit Sir Théophile, je ne pardonnerai pas cet enlèvement. » Alors ils l'entraînèrent dans un coin de la boutique où tous les trois, suivant leur usage, se mirent à rire et à chuchoter. « Vous ne soupçonneriez peut-être pas, dit Lord Holernay à Lady Isabella en souriant, que l'un de ces triumvirs ne manque pas de mérite et qu'il est, quand il le veut, extrêmement agréable. « Votre seigneurie juge très bien, je l'avoue. En effet, je ne lui aurais pas rendu cette justice. » « Voyez donc, dit le Lord, combien l'homme est un animal futile, sans principe, sans caractère décidé. Il est tout par moment et rien de suite, il est tout par moment et rien de suite, sage, fou, vertueux, vicieux, actif, indolent, prodigue et avare. Il n'est point de contraste qui l'effraie. Ce jeune homme, ainsi que tous ses confrères en bon ton, ne sent pas qu'il se prépare une longue mortification, faute de prévoir que plus il est renommé dans sa genèse, plus il est l'homme du jour, et plus tôt il sera réformé comme de trop vieille date, comme un petit maître émérite et un élégant du vieux temps. Mais c'est par de telles vicissitudes que la folie et l'indécence reçoivent leur châtiment. Nous pouvons nous épargner notre humeur contre la vanité des belles et l'impertinence des sots. Les rides ne sont-elles pas là pour nous venger des premières et une maturité sans honneur pour châtier les autres ? Tous les intéressés à la loterie étaient maintenant arrivés, excepté Mistress Bernington, qu'on attendait avec impatience. Lady Alice et Asselmore, au grand regret de la majeure partie de la société, avaient déjà envoyé quelqu'un pour la représenter. Une inquiétude générale faisant lever tout le monde pour voir si Mistress Burlington arrivait, fournit à Edgar l'occasion de se trouver enfin près de Camilla. « Que je suis fâché, lui dit-il, que vous ne connaissiez point Lady Isabella Airby. Elle me paraît, par ses manières, un modèle pour une femme de son rang et, par son esprit, un modèle pour les femmes de toutes conditions. Je crois que, pour le monde entier, elle n'eût pas voulu donner une marque aussi offensante de supériorité que celle que vient précisément de donner Lady Alicia, qui, sur 20 personnes, a trouvé l'ingénieux secret de se faire regarder comme la plus importante en se faisant 19 ennemis. « Je suis surprise, dit Camilla, qu'elle n'ait pas craint de compromettre sa dignité en assistant au tirage de loterie. » Comme elle disait ces mots, un domestique à livrée entre et demande Miss Tyrold. Le major Sherwood la lui indique et le domestique lui remet une lettre de Mistress Burlington. Cette dame lui marquait qu'elle était absolument captivée par les plaisirs de l'imagination auxquels elle ne pouvait s'arracher en ce moment. En conséquence, elle la priait d'accepter sa procuration pour le tirage de la loterie. Camilla rougit excessivement en proclamant que Mistress Burlington l'avait choisie pour la représenter. Sa modestie et sa confusion touchèrent Edgar, et il vit avec le plus sensible plaisir la favorable impression qu'elles firent sur Lord Holurney et Lady Isabella. Comme il désirait de s'ouvrir à Camilla sur le compte de Mistress Burlington, il ne crut pas devoir laisser échapper cette circonstance. Il saisit donc le moment où les joueurs étaient occupés à arranger l'ordre du tirage, et s'adressant à Camilla, il lui dit à voix basse et avec quelque embarras « Vous m'avez donné à remplir un devoir important et peut-être fâcheux. Cependant, je ne le trahirai point, et quoique je sache combien il est dur de donner des avis qui contrarient les goûts et les sentiments, je n'hésiterai point à vous les donner. Ne regardez donc pas ce que je vais vous dire comme une censure de votre conduite, mais comme de simples observations, comme des conseils que l'amitié croit pouvoir être utile. » Camilla, affectée de ce préambule, attendit impatiemment l'explication qui devait la suivre. « La dame que vous allez représenter, continua-t-il, paraît extrêmement engageante. »« Elle l'est en effet, dit Camilla, elle est douce, aimable. » Il paraît aussi qu'elle a déjà votre affection. Pouvais-je la lui refuser, d'après la manière dont elle s'est offerte à ma vue? Elle est aussi malheureuse qu'aimable. Ce que j'ai appris de votre première rencontre m'a fait beaucoup de plaisir par la présence d'esprit qu'elle annonce en vous. Mais les mêmes circonstances ne m'ont inspiré que du doute et de la perplexité à son égard. Ah, si vous la connaissiez, vous ne resteriez pas longtemps dans ce doute, vous ne pourriez vous empêcher de l'admirer, de la plaindre et de l'aimer. Si elle parvenait à intéresser en sa faveur, sans convaincre qu'elle en est digne, je devrais vous plaindre d'être tombée dans ce piège. Je la crois incapable d'aucun mal, dit vivement Camilla, quoique je n'ose pourtant assurer que parfois elle ne commette quelque imprudence. « Je ne prétends pas heurter votre opinion, » reprit Edgar avec douceur. « Je n'ignore pas combien cette dame est aimable dans sa personne et agréable dans ses manières. Elle est d'ailleurs si jeune que, dans une situation moins critique, moins exposée, ce qui lui manque de jugement et de retenue, elle pourrait l'acquérir en peu de temps. Mais ici, elle est beaucoup plus à craindre par le rôle qu'elle y joue. Oh, il eût été bien heureux que vous vous fussiez intimement lié avec Lady Isabella Airby. » Là, vous auriez pu joindre le plaisir de l'amitié à la modestie d'une aimable retraite et à la sécurité d'un respect établi. Tout cela ne peut-il pas se trouver auprès de Mrs. Burlington ? Lady Isabella, quoiqu'encore jeune, ne l'est pas autant qu'elle. Quelques années de plus peuvent donc lui donner la même discrétion. Et comme elle a déjà toutes les autres bonnes qualités, elle sera ce qu'est maintenant Lady Isabella. Pensez-vous, dit Edgar avec un léger sourire, que Lady Isabella ait employé le peu d'années qu'elle a sur Mrs. Burlington de la manière dont celle-ci emploie les siennes? Croyez-vous qu'elle se soit frayé le chemin à sa dignité actuelle en s'entourant d'adorateurs, en laissant parvenir leurs soupirs à ses oreilles, en se rendant le centre de leur enthousiasme et de leur regard, et se croyant quitte envers elle-même et envers les autres si elle n'encourage pas ouvertement ces sortes de libertés? Camilla fut interdite. Elle n'avait jamais considéré la conduite de cette dame sous ce point de vue. Mais elle ne pouvait se dissimuler qu'elle était susceptible d'une pareille interprétation. Charmé de la candeur de son silence, Edgar reprit en ces termes. « Que la conduite de Lady Isabella prête peu à de semblables commentaires, comme elle est pure et transparente, qu'il serait difficile de la ternir par la moindre conjecture. » Il est possible que Mrs. Burlington soit également irréprochable et votre opinion sur elle me fortifie dans cette idée. Mais il faut à la vraie dignité de votre sexe une conduite à l'abri du soupçon. On pourrait dire qu'il suffit de s'y exposer pour n'être pas sans reproche. Voyez quelle différence entre ces deux femmes. Lady Isabella ne se livre qu'à ses connaissances, n'est suivie que parce qu'elle est aimée. Elle ne se voit pas entourée d'un cercle d'adulateurs parce que l'adulation lui donnerait de l'ombrage. On ne l'admire point parce que l'admiration l'offenserait. Elle sait qu'elle n'a pas sa seule innocence à garder, qu'elle est en outre dépositaire de l'honneur de son mari. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse avec lui, c'est un secret également sacré pour elle. Il s'arrêta sur cette dernière circonstance parce qu'il vit l'impression qu'elle faisait sur Camilla, naturellement trop franche pour nier combien elle en était frappée. « Ah » dit-elle naïvement, « que je puisse du moins avertir de ce devoir cette aimable et jeune créature. »« Ma chère Camilla, » répondit Edgar de la manière la plus pathétique, « puisque vous sentez et avouez ce qui n'est jamais en vous qu'une même chose, combien est méprisable une pareille indiscrétion ?» Retirez ou suspendez du moins une intimité trop hasardeuse pour qu'il soit convenable de s'y livrer. Attendez quelque temps avant de vous lier d'une manière plus étroite avec cette dame. Son inexpérience actuelle pourrait vous faire partager des dangers. Vous êtes trop jeune pour courir de semblables risques. Fuyez-la, ma chère Camilla, fuyez-la comme si la voix de votre mère vous en conjurait. Camilla fut profondément touchée. Un intérêt si vif pour son bonheur la comblait de satisfaction et le nom de sa mère le lui rendait respectable. Cependant, ce nom qui s'y trouvait mêlé la portait plus que jamais à croire que cet intérêt était purement fraternel. Cette idée lui arracha un soupir qu'Edgar attribua à ce qu'il venait de lui dire. « Ce que je vous ai demandé, dit-il, est donc trop sévère et trop pénible ?» Camilla soupira de nouveau et recueillant toute sa force pour cacher la cause secrète de son trouble, elle répondit « Si elle est dans un danger imminent, si sa situation est si périlleuse, loin de l'abandonner, ne devrais-je pas plutôt rester auprès d'elle pour tâcher de la sauver et de lui épargner les maux qui l'attendent ?»« Généreuse Camilla, dit Edgar transporté de joie, que peut-on opposer à un dessein aussi pur, à un caractère aussi beau ?» Il ne put en dire davantage, car tous les préliminaires étant remplis, on allait procéder au tirage et on appela Camilla. Dès ce moment, il fut impossible à Edgar de lui parler et le major même put à peine se faire jour jusqu'à elle. Les deux hommes du bon ton s'en étaient emparés et Sir Sedley Clarendel lui faisait ouvertement sa cour. Edgar l'observait avec la plus vive émotion. Son cœur venait de recevoir la preuve qu'elle avait toujours la même candeur, la même excellence, et il craignait de la voir s'altérer par les flagorneries et les dangers qui l'environnaient. Cette inquiétude et ses soupçons sur le major le rendirent plus malheureux que jamais. Mais quelque temps après, quand elle fut appelée pour tirer son propre billet, le souvenir que, dans une circonstance semblable, au moment où elle se réjouissait le plus de tenter le sort, elle avait volontairement donné sa demi-guinée pour le soutien d'une famille malheureuse. Ce souvenir l'affecta tellement qu'il fut obligé de sortir pour aller respirer et cacher son trouble. Le lot échut à Camilla. On proclama qu'elle avait gagné. Cette faveur de la fortune lui causa la plus agréable surprise et fit retentir la salle de félicitations. On sortit. Edgar suivit presque involontairement Camilla, mais il ne put déplacer le baronnet ni le major, dont l'un avec une sorte de triomphe et l'autre avec l'air de l'obstination ne désemparait pas auprès d'elle. Il vit que toute l'attention de Camilla était pour Sir Sedley et que le major n'obtenait que celle qu'il était indispensable de lui accorder. Était-ce indifférence ou sécurité? Cherchait-elle dans le baronnet un nouvel adorateur ou ne voulait-elle qu'exciter la jalousie de l'autre? Il marchait silencieusement, se disant à lui-même « Est-ce là cette Camilla si simple, si ingénue, si naïve? Je n'y conçois plus rien. » Il n'osait joindre Mistress Alberi, se reprochant de ne lui avoir pas fait une visite. Ce n'était pas le moment de s'arrêter chez elle sans invitation, quoiqu'elle fût disposée à le lui offrir. Elle était intérieurement piquée du peu de désir qu'il avait montré de faire sa connaissance, et ils avaient l'un et l'autre trop de pénétration pour ne pas s'apercevoir combien ils étaient éloignés d'être amis.